Scrivens O, Scrivens A.
"2025 à tout berzinc, et que champagne soit." Parfois, surgit le goût de repartir à zéro, ne plus brusquer les choses, ouvrir les parois claires. Alors, on lâche le bouchon de liège pour un voyage dans l'espace. Et puis on verse jusqu'au débordement, à la goutte de trop. Et voilà le cortège qui vient mettre le trouble, sonner l'effervescence. Velours de miel ou rayon de corail, et bonjour le tohu-bohu. On fait teinter les coupes, on trinque à trembler le cristal. On fait chin-chin à la santé de tout, en se regardant dans les yeux. Il n'y a plus loin de ma coupe à tes lèvres, mais seulement quelques milliers de bulles en beau désordre d'impatience qui formulent un vœu. Inaudible, bien sûr, à moins d'être amoureux, au secret bien gardé.
Petit clin d'œil en ce mois de février, aux vœux de janvier, qu'il ne nous faut pas oublier grâce à ce poème de notre invité, grande figure de la poésie et littérature marseillaise, fondateur du scriptorium, Dominique Sorante. Sorante? Mais d'où vient ce nom?
En italien, on dirait Sorrento.
Et depuis quand vis-tu à Marseille?
Depuis ma presque tendre enfance. Je suis né à Nevers, mais rapidement j'ai rejoint Marseille où étaient mes parents. Et j'ai passé toute mon enfance à Marseille. Ensuite, je suis parti à Aix-en-Provence et un peu plus tard, mes études m'ont amené à Paris et à Bruges en Belgique. Et puis, il y a eu quelques épisodes, mais je suis revenu à Marseille pour ma vie professionnelle. Et ensuite, finalement, je suis resté l'essentiel de ma vie dans cette ville.
Alors ça, c'est ta biographie géographique. Qu'en est-il de ta biographie d'écrivain?
Alors, ça m'est arrivé de me replonger dans mon histoire personnelle. Et il y a en gros, dans toute mon enfance, pas grand-chose à signaler. Sinon, un petit fait que j'étais renvoyé de l'école pour un texte que j'avais écrit. Mais bon, rien de grave. Et puis, ça a été l'occasion d'apprécier le fait que mon père a souri quand il a lu mon texte. Et au fond, il trouvait que mon texte avait une certaine qualité. J'ai découvert là le pouvoir de l'écriture. Mais bon, c'est pas grand-chose. Par contre, quand a commencé ma vie étudiante, il se trouve que j'ai été étudiant très tôt, à 16 ans et demi. Et quand j'ai débarqué à Aix-en-Provence, qui pour moi était le bout du monde, j'avais la chance d'avoir une chambre étudiante. Et là, l'écriture poétique et la chanson se sont mises en marche d'une façon invraisemblable. Ça a été un moment clé dans ma vie, un moment d'écriture, de création, un moment de rencontre, un moment exceptionnel. Je dois dire que je faisais des études de sciences économiques et que je me suis absenté de plus en plus de mes études pour me consacrer à la poésie et à la chanson. Et donc c'est vraiment la date fondatrice, mes 16 ans et demi, 17 ans, voilà.
Donc nous étions en quelle année?
En 1970.
Et à l'époque, tu avais des références?
Alors, en fait, j'ai un flash au moment où on se parle. Je vais à la librairie qui n'existe plus, qui s'appelait Paradox Bookstore à Aix-en-Provence. Et il y a un livre carré, rouge, et un autre carré, vert. Je les prends, l'un et l'autre, et le premier était un livre sur Arthur Rimbaud et le second sur Friedrich Nietzsche. Et c'était dans la même collection, c'était la collection Poète d'aujourd'hui, édition Pierre Segers. Et bien plus tard, je rencontrerai Pierre Segers et Colette, et je leur dirai d'ailleurs que ces deux ouvrages, et j'allais dire ces deux couleurs d'ouvrages, m'ont fait un effet substantiel. Ça, c'est pour les livres. Après, il y a eu deux personnes, un puis l'autre.
Qu'as-tu trouvé dans ces deux ouvrages verts et rouges, des textes d'Arthur Rimbaud ?
Oui, c'était très bien fait, cette collection. C'est la collection dans laquelle Segers a publié, le premier auteur qu'il a publié, c'est Paul Éluard, à la sortie de la guerre. Et c'est une collection qui était très bien faite, puisqu'il y avait un texte de présentation générale, biographique, évoquant l'auteur, et puis ensuite, une succession d'extraits, d'œuvres des auteurs. Et puis, quelques images, quelques photos, et ça suffisait à voyager dans cette expérience. Les deux livres étaient, j'allais dire, magnétiques. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué avec ces deux personnages un peu extravagants. Je les ai jamais rencontrés de mon vivant, mais ils étaient là. Ils étaient là et j'ai appris là que les poètes vivaient peut-être 200 ans avant vous, ou un peu moins s'agissant de Rimbaud, mais ils sont à côté de nous à partir du moment où on prend leur livre, leur poème. Ils nous accompagnent et on les accompagne. Et alors, concernant donc les personnes qui étaient vivantes à l'époque, donc un ami d'école, Michel Orcel, qui habitait pas loin de moi à Aix-en-Provence, et qui est venu me voir et qui me dit « Moi, j'ai envie d'être écrivain très, très tôt ». Et donc, on se retrouve tous les deux dans cette dynamique-là. Et Michel avait une grande culture et il me met en relation avec un autre personnage qui est Christian Guèze, celui qu'on appelait Christian Guèze et qui plus tard portera le nom de Christian Gabriel Guèze Ricord. Et là, c'est quelque chose d'autre qui se joue. Je vais aller voir Christian. Christian a 4 ans de plus que moi et c'est un être extravagant, un être habité par la poésie, qui a déjà été reconnu par des gens qui ont une expérience poétique qui le précède. Il est précoce et il est précoce aussi dans l'intensité de ce qu'il vit, puisque il a été amoureux très tôt. Cette relation amoureuse, cette incandescence amoureuse a provoqué ou accompagné des troubles psychiatriques. Et Christian s'est mis à écrire de la poésie très tôt. Je découvre un univers extravagant nourricier, quelqu'un qui va me marquer profondément et qui va me montrer comment on peut vivre de façon intense jusqu'à aller au bout de sa vie dans l'expérience poétique.
Alors, j'ai envie de t'interrompre juste un petit instant parce que tu as utilisé à plusieurs reprises le mot extravagant. Est-ce que cette extravagance se rapporte à la folie pour toi?
Oui, alors
Ou à ce grain de folie?
Non, mais chez Christian, le grain a été s'est manifesté de façon très forte. Beaucoup de gens ont connu Christian, et beaucoup de gens qui vivent encore aujourd'hui ont connu Christian, et ont connu les expériences de Christian, qui a été dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, qui m'est arrivé pendant ces dernières années, je parle de ces 20 ou 30 dernières années, de rencontrer des psychiatres comme ça, et à chaque fois, ils citaient Christian comme étant une des personnes qui les avait les plus frappées par son génie et bien sûr par les délires qu'il portait avec lui. Donc c'est une expérience, oui, le mot extravagant, il est commode pour moi. La folie de Christian, elle était de tous les instants, mais la particularité de sa folie, il a été comparé à Nerval, il a été comparé à Antonin Artaud, il a remué beaucoup de gens ici à Marseille, non loin de là où nous parlons en ce moment, mais aussi à Paris et dans d'autres lieux. Il a été quelqu'un qui était une sorte de clochard céleste et il écrivait énormément. Il a une œuvre gigantesque qui, pour la plupart, n'est pas encore publiée, mais on connaît quand même beaucoup de choses de ce qu'il a fait. Et moi, il m'a appris que l'écriture et la parole poétique étaient porteuses d'un réel qui l'emportait sur celui qui était énoncé de façon parfois banale par les
Pragmatique.
gens. Oui, c'est tout débordé en lui. Et il y a chez lui quelque chose d'assez fort. Et en même temps de merveilleux et de terrible, c'est que il avait inventé une écriture de vers de 21 pieds. Et ça représentait une œuvre entière, une de ses œuvres entières. Et il faisait cela, alors il avait des raisons, j'allais dire, kabbalistiques, qui nous a expliquées, mais derrière cela, il y avait l'idée de maîtriser à travers l'écriture et la pratique poétique, maîtriser quelque chose qui était une énergie qui débordait de la page. Et donc son père était architecte et il était parti au Canada, mais il avait reçu cette conscience de l'architecte avec la notion de maîtrise, mais la maîtrise essayait de tenir un débordement de l'être de tous les instants. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup impressionné chez Christian. Puis il y a une autre chose chez lui, et c'était qu'il avait beaucoup d'humour. Et je pense que s'il n'avait pas eu cet humour, je crois que la partie tragique aurait été la seule partie qui l'emporte, alors qu'il était capable d'avoir ces éléments de distance et de créativité par le langage qui était absolument fascinant.
Un modèle pour toi?
Alors le mot de modèle, c'est j'ai beaucoup écrit sur le rapport de la poésie entre la polarité de la folie et la polarité de la sagesse. Depuis quelques années, j'ai rencontré pas mal de gens qui, au fond, ont un culte de la sagesse, alors toutes les formes de sagesse. Mais là, à 16 ans et demi, je rencontre quelqu'un qui a une polarité de la folie et qui exerce une influence et qui me marque. Et j'accepte d'entrer dans cette folie tout en gardant un écart possible. Mais je suis attiré par cela. Et donc, je me suis toujours dit que la polarité sagesse est merveilleuse pour, voilà, pour apprendre à respirer. Mais l'intensité de vivre, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et j'ai donc toujours gardé cela dans ma pratique d'écriture. J'ai beaucoup écrit des poèmes autour de Christian, par exemple, sur son œuvre. Là, j'ai un manuscrit qui paraîtra un jour, je ne sais quand, mais autour de sa personnalité. Et je garde vraiment cette dimension-là, ce feu, cette incandescence, qui pour moi veut dire qu'il y a quelque chose qui nous anime dans l'acte de poésie.
Et est-ce que lorsque tu écris, c'est cette incandescence que tu recherches?
Alors ça c'est
Ou que tu nourris, ou que tu t'exerces à travailler pour la trouver et pour que jaillisse de cette incandescence un texte qui te plaise, qui te satisfasse?
je crois que y a une frontière, il y a une limite étrange qui est que l'écriture. J'ai rencontré une psy, j'en ai fréquenté, qui m'avait dit un jour, au fond, l'écriture, vous abordez de la folie. Et bon, ça m'allait assez bien, cette réponse. C'est-à-dire que l'écriture poétique a fait que il y a eu ce versant de la folie qui a pu être regardé par moi sans que je m'y perde. Donc je l'ai gardé. Il y a au fond cette question de l'inconnu devant soi. Il y a toujours de l'inconnu devant soi. Et l'écriture poétique vous met dans cette situation de l'inconnu. Mais en même temps, l'écriture nous oblige à une structuration par le langage. Et donc elle nous ramène aux possibilités du langage. Et elle nous tient. C'est pour ça qu'au fond, ça peut se dire très simplement, hein, quand je vais voir des enfants ou oui, dans des classes ou autres, je dis voilà, on a un cerveau, on a les fameux, bon, on peut discuter de ça, mais deux hémisphères du cerveau. La particularité de la pratique poétique, c'est que la partie du langage qui est la partie qu'on appelle le cerveau droit, c'est le langage, mais de l'autre côté, il y a l'émotion qui cherche à se dire. Et en fait, notre pratique poétique, c'est de faire se croiser ces deux univers. Et c'est la raison pour laquelle on a parfois des rejets violents de gens qui ne supportent pas une langue qui n'est pas maîtrisée. Le poète, il va visiter la langue de l'émotion, mais il utilise le langage. Et donc, c'est comme cela qu'il arrive à essayer de nommer quelque chose d'indicible, hein, d'innommable. Donc, bon, c'est notre aventure.
Alors, il y a un autre terme, deux autres termes sur lesquels j'aimerais que nous revenions. C'est le mot polarité, pardon. Parce que pour moi, polarité, par exemple, le mot sagesse s'opposerait à la folie. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu utilisais le terme polarité?
Oui, c'est ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Petit Livre de└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└װ## J'ai l'ai retrouvé là, parce que je fais. Et dans le petit livre de Co est un livre publié chez Chêne Éditeur en 2001. Et dans l'avant-propos, je dis qu'au fond, longtemps, j'ai cru qu'il y avait ces deux pentes de la poésie. L'une qui remuait avec le monde dit de la folie, et l'autre qui avait essayé de se réaliser à travers la sagesse. Et dans ce livre-là, bah, l'idée, c'était d'essayer de reprendre un peu ces deux éléments, mais de les traverser autrement. et ne pas rester dans cette ambivalence. Quand l'histoire de la folie et de Christian Engels, Ricœur que j'ai nommé, c'était ce thème que j'ai vraiment eu. C'est le thème des poètes maudits, hein, parce qu'il appartient à cette catégorie. Il est mort, il était retrouvé mort à 40 ans, avec une boîte de médicaments vide. Donc c'était bien cette question qui était en jeu. La sagesse, c'est le petit livre de Coe, c'est Coëlette, c'est le livre de la sagesse qui était le fil conducteur avant l'écriture de mon livre. Et là, je me retrouve dans un autre schéma. Et c'est la question, c'était est-ce qu'il faut choisir entre ces deux mondes ou est-ce qu'il n'y a pas une voie à trouver autre pour respirer?
Mais pour en revenir à Christian Guest, quelque part, son patrimoine génétique ou patriarcal, c'est-à-dire que son papa était architecte, ne lui a pas donné la possibilité justement d'écrire. Enfin, je pense que c'est cela que tu voulais traduire en disant que quelque part, il pouvait, avec ce langage un peu fou, bâtir, construire. Donner une forme, une cohérence, ne serait-ce qu'en écrivant des vers de 21 pieds.
En fait, d'un point de vue biographique, ça serait bien long à expliquer et je pense que je ferai une conférence un jour ou quelque chose comme ça sur Christian, tellement c'est foisonnant. Je l'ai déjà fait, mais il faudrait que je le reprenne. Il y a. Christian était très fort en mathématiques, c'était un génie en mathématiques. Et il a été étudiant à l'école de commerce à Marseille et il n'y allait jamais, il avait 17 sur 20. Donc voilà, il était hors catégorie, mais la part qui l'a profondément ému à un moment donné, c'est une expérience amoureuse et avec quelqu'un qui est la famille d'Albert Camus. Et la deuxième chose, c'est des visions qu'il a eues. Et donc là, c'est une dimension mystique. Et on peut voir comment ces éléments-là, alors on peut dire maternels, j'ai beaucoup connu sa mère, après la mort de Christian notamment, et là, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui se jouait. Et puis son père est parti, père absent, père architecte, mais il avait glané un peu ces éléments-là. Donc il y a quand même l'idée de qu'il y a une vérité à aller chercher dans la vie et une vérité d'amour. Chez Christian, il y a quelque chose qui est en jeu de cet ordre-là. Et moi, ça m'a fasciné parce que, bon, j'ai fait allusion pour Christian, mais pour moi aussi, ça. Tout commence par un chagrin d'amour. Voilà. C'est un chagrin d'amour et une rencontre. Une rencontre de quelqu'un qui va dire que au-delà de ce chagrin d'amour, il y a une quête et que la quête ne se termine pas avec ce premier chagrin d'amour. Elle permet d'avoir d'autres chagrins d'amour, mais aussi on part dans une traversée. L'expérience de la traversée est la seule expérience. C'est une parole de Christian dans un de ses premiers livres qui s'appelle Rosace.
Donc le chagrin d'amour serait un moteur, tout comme la rencontre.
Le chagrin d'amour a été premier. Oui, moi j'en suis absolument persuadé. À titre personnel, c'est voilà, mes 16 ans près de la Liffey en Irlande, c'est daté. Et ensuite, rencontre. Et si je reviens à moi-même, la rencontre, il y a au moins deux personnes. Là, j'ai cité Christian Guèze-Ricord, donc un poète, et le deuxième, c'est un moine, le père Alexis d'Aiguebelle, Notre-Dame d'Aiguebelle, qui est quelqu'un qui est un voyant. Alors, pas voyant comme Rimbaud, mais quelqu'un qui vous voit et qui vous parle de vous comme si vous connaissez depuis toujours. Voilà. Et qui a rencontré plein de gens comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des. Qui était, on va dire, médium, comme même l'expression est galvaudée aujourd'hui, hein, mais qui a remué. Et quand vous avez cet âge-là, vous dites, là, il y a quelqu'un qui est animé par quelque chose qui vous rend l'existence différente. parce que on va traverser le réel, la réalité banale, et on va voir dans les êtres.
Est-ce que je me pose cette question, tu es animé par quelque chose de l'ordre, je répète, pardon, est-ce que tu es animé par quelque chose de l'ordre du spirituel? Parce que quand je t'écoute, de la même manière, et c'est pour ça que je voulais revenir sur le terme coïncidence, parce que lorsque ton regard s'est posé sur ces deux livres rouges et verts, il s'agissait d'une coïncidence. Et la coïncidence, si actuellement je m'interroge sur le sens du mot coïncidence, de même que le sens du mot hasard, et j'en reviens à vouloir me replonger dans les écrits de Jung. Jung était outre un psychiatre, mais aussi un être spirituel. Et je me demandais si toi-même, tu n'étais pas animé par ce quelque chose spirituel.
À 16 ans et demi, parmi les livres, j'ai cité les deux premiers livres que j'ai reçus, il y avait Psychologie et Alchimie de Carl Gustav Jung. Et j'ai jamais, je l'ai perdu, comme je perds beaucoup de livres, et je ne l'ai jamais racheté. Mais je le vois encore, ce livre-là. Et il a beaucoup fait pour aussi l'exploration des rêves à cette époque-là. Et la conviction que je partais à l'aventure d'une connaissance transcendante du réel, c'est venu comme une évidence, de plein pied. Et les rencontres que je cite m'a mené à cette conviction. Il y avait une quête pour savoir où est le réel dans toute son intensité. Et je rencontrais des gens comme ces deux que j'ai cités, et puis après j'en ai rencontré d'autres, peut-être un peu moins marquants, mais au fond, il y a un peu plus tard, il y a quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un biologiste végétal qui est Jean-Marie Pelt, qui a été mon professeur, qui a été un des pères de l'écologie, bien avant beaucoup de gens. Et c'était quelqu'un du même ordre. J'ai rencontré, j'étais pas vieux, hein, j'avais 22, 23 ans, 22 ans. Mais c'était quelque chose du même ordre. C'est-à-dire, je l'ai vu, pour le coup, c'est moi qui lui ai dit des choses, et sur lui. Et donc, voilà, on passait à un autre ordre dans la relation entre les personnes. Et pour moi, c'est ça l'ordre poétique. Donc, je ne suis pas du tout dans la question de savoir si c'est littéraire, pas littéraire, dans quelle catégorie et autres. On est dans la vie. C'est l'intensité de la vie. Et la poésie, elle est la façon de nommer cette vie. Et je pensais, par rapport au mot que tu as utilisé, là, que tu as repris, et je l'aime beaucoup, c'est le mot de coïncidence. Parce que lorsque j'ai créé l'association Le Scriptorium,
J'allais enchaîner là-dessus justement.
j'avais au fond. Ou plutôt, on va dire un peu en arrière, j'avais écrit des aphorismes à l'époque, j'en écris toujours, mais il y avait l'aube doit apprendre au hasard qu'il n'existe pas. Et donc la question du mot hasard, avec un mot qui serait, je sais pas moi, la fatalité de l'autre côté, sont des mots qui ne vont pas avec la façon dont la vie s'aventure pour moi. Le mot de coïncidence m'a semblé plus juste pour qualifier cette réalité. La coïncidence, quand les choses coïncident, c'est qu'elles se rencontrent. Et les personnes aussi. Et c'est vrai que dans mon aventure collective du Scriptorium, j'ai lancé, il faut aussi s'amuser, mais je disais, ce sont les poètes de la coïncidence. Voilà. Il faut que nous soyons des poètes de la coïncidence. Ça marchera, ça marchera pas, on verra bien comment ça se passe, mais il y a un désir de cela.
De rencontre et de temporalité.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Alors, puisque cette année nous fêtons les 25 ans du
Eh oui,
Scriptorium,
eh oui.
peux-tu nous dire quelques mots de cette association?
Alors, on arrive en effet aux 25 ans, et alors la date de bascule, c'est le 31 décembre 1999, Et le 1er janvier 2000, c'est la naissance qui est symbolique du scriptorium. Et donc on arrive, voilà, dans le champ des 25 ans. Après, on va fêter ça toute l'année, hein, parce que la fête est importante. Le scriptorium, c'était le désir de faire poésie ensemble. Le nom de scriptorium, je l'avais rencontré dans l'ouest de la France, parce que je suis du sud, mais aussi de l'ouest, avec un lieu d'un scriptorium à ciel ouvert. Le scriptorium dans les monastères, c'est le lieu où les moines se rencontraient, mais travaillaient en silence pour un travail de copie. Ce sont les copistes. Et ça a lieu avant l'imprimerie. Quand on copie à l'unité. Donc c'est une œuvre rare. Et on est seul et relié. Et au fond, pour moi, c'est un idéal de la poésie, c'est-à-dire la solitude, on est seul, mais on est aussi relié aux autres. Et quand la vie a passé, que j'ai fait d'autres expériences collectives, j'ai créé une revue qui s'appelait Avalanche quand j'avais 20 ans. J'ai beaucoup participé à la revue Sud pendant une vingtaine d'années à Marseille. Je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose d'autre. Et est arrivée cette idée de créer un groupe de poètes et de passionnés de poésie pour faire poésie ensemble.
Et comment ça se matérialise, faire poésie ensemble, œuvre commune?
Alors, les rencontres du scriptorium ont été faites de telle façon que on se réunisse. Alors, il y avait des formes variées à travers le temps, la forme, ce que j'ai appelé les intervalles poétiques. On avait un thème, et puis chacun arrivait avec un texte qu'il partageait sur le thème en question. Ensuite, je suis allé un peu au-delà avec ce qu'on a pu appeler la caravane poétique. Là, on se déplace. On s'arrête dans un lieu, on dit des poèmes, on repart et on a tout un parcours comme cela. On a fait une caravane, des caravanes intramuros à Marseille et puis on est allé en caravane dans le Vaucluse notamment, avec une association qui s'appelle Pierre Sèche en Vaucluse. On a inventé aussi des siestes poétiques et ça met en joie les gens qui n'habitent pas à Marseille et donc ça me déplaît pas. Et là aussi, il y a quelque chose à inventer. L'idée est toujours la même, mais les formes sont variées, puisque dans ces temps-là, la poésie circule, elle circule à plusieurs, et il y a quelque chose qui advient. On a fait aussi des jumelages avec une ville d'Italie qui s'appelle Pistoia. On a fait une rencontre avec des poètes italiens qui étaient venus à Marseille, et nous, on était venus aussi à Pistoia. Voilà, à chaque fois, inventer des gestes poétiques et aller peut-être jusqu'au chorus, c'est-à-dire la poésie chorus, là aussi c'est une invention, c'est l'idée de dire des textes à plusieurs voix et qui est un travail réalisé ensemble. On a créé aussi un poème épique à plusieurs. Donc voilà, enfin, c'est un peu décousu ce que je raconte là, mais c'est pour dire que l'idée, ce sont toujours des gestes poétiques ensemble. Personne ne disparaît. Moi, je ne suis pas du tout pour la disparition des personnes. Les individus existent, mais le collectif arrive à quelque chose qui est une nouvelle création, une création supplémentaire. Et pour le coup, là, il y a une dimension éthique compte tenu de l'hyper-individualisme de notre époque. Et vous voyez, j'ai créé en 99-2000 et 25 ans après, ça n'a fait que j'allais dire, empirer cet individualisme. Et donc, ces foyers, ces creusets de rencontres à quelques-uns, il est arrivé qu'on me dise que c'était précieux. Voilà, ça fait beaucoup de bien.
Et donc, ça existe, ça continue d'exister. Est-ce que de plus en plus de personnes se joignent au scriptorium?
Ça a été fluctuant. C'est vrai que ces 2-3 dernières années, on a pas mal de gens. Il y a une réflexion sur ça. Là, on est une quarantaine, là. Moi, j'aspire pas à plus. La question de la quantité, là, maintenant, parce que ça devient difficile à gérer, comme on dit aujourd'hui. Alors, on invente des sous-groupes. Par exemple, j'ai inventé une micro-caravane poétique le lundi matin. Et là, on se retrouve à 6-8. Voilà. Donc, ça me plaît bien aussi de retrouver un peu ça. Mais on a des temps plus larges.
Petite interlude par ce retour au générique pour vous dire quelques mots de B comme Bran, publié aux éditions du Scriptorium, accompagné de son CD, dont Dominique Sorrente va nous parler dans quelques instants. Pourquoi ce choix dans la longue bibliographie de notre invité? Parce que ce recueil est truffé de micro-fictions et que me démangeait cette question à poser à Dominique. Quand et comment les genres poésie ou récit s'imposent-ils à lui? Mais avant cela, je vais vous lire un court extrait de Bran, qui ne va pas sans me rappeler un certain Plume d'Henri Michaux. La vérité est qu'il y a bien longtemps que le réveil de notre héros ne fait plus un tic-tac orthodoxe à l'heure dite. Parfois, un tic s'avance, mais le tac fait alors défaut. Ou bien une série de tacs déferle par une fissure du plafond et le tic maigrelet n'a qu'à bien se tenir. Si seulement tic et tac naviguaient dans le même bateau. Songe Bran au petit déjeuner. Une fois de plus, Bran a décidé de passer en revue les bornes toute la journée. Puis il boit son potage en avis de tempête, avant l'entame de la nouvelle nuit. Pour finir sur Bran, parce que on a l'impression que c'est le diminutif de Brandon.
Oui, alors on peut dire ça comme ça, sauf que Bran, ça c'est ma fibre celtique. Je pense que la première fois que j'ai vu ce nom, c'était dans une épopée irlandaise, l'histoire de Bran, fils de Fébal. Ça avait été recueilli par quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'avais rencontré, qui s'appelle Jean Marchal, qui était un écrivain breton et qui était passionné de légendes irlandaises et celtiques. Voilà. Et donc j'ai emprunté le nom en question. Et puis après, Bran a eu sa propre vie avec moi. Et ma foi, il m'a bien fait rire. Avec les amis avec lesquels j'ai travaillé, Colette Papillot et Daniel Vincent, qui sont on les appelle des plasticiens sonores. Quand on échangeait tout le temps, il me dit, alors tu vas me faire une branlerie, ça va ta branditude, etc. Donc Bran s'est mis à vivre avec eux et par eux aussi, dans toutes les bêtises ou les choses insolites qu'ils pouvaient faire. Parce qu'il avait une façon à lui de traverser la rue, etc. Donc c'était un peu son rôle.
Et de manière générale, comment travailles-tu? De manière secondaire, comment travailles-tu la fiction d'un côté et la poésie de l'autre? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est une façon de procéder qui n'est pas la même?
Je pense qu'au fond, il y a cette énigme du déclencheur. Et le déclencheur, ça peut être un mot que j'entends à la radio. Ça peut être un objet. Ça revient très vite à un mot, quoi qu'il arrive. Et Ensuite, le processus d'écriture fait que il va y avoir des sortes de suite qui va se mettre en place. Moi, je suis obligé de revendiquer le mot d'inspiration parce que je ne sais toujours pas ce que c'est. Je sais des choses qui favorisent cela. Par exemple, pour les chansons, voilà, les rimes favorisent. Ça contraint, mais ça favorise. Mais le surgissement reste pour moi un mystère absolu. Il y a des conditions dans lesquelles les surgissements peuvent exister. Mais il m'est arrivé dans ma vie, maintenant je peux le dire parce que je suis à la retraite professionnelle, mais dans des cours, hop, il y a quelque chose qui arrive, je m'arrangeais, faire une pause avec les étudiants, et hop, j'écrivais un truc sur le carnet. Après, je reprenais le cours quand même, parce que sinon, ça serait vu. Donc, c'est une disponibilité.
Des fulgurances? Est-ce qu'on peut parler de fulgurances?
Oui, tout à fait. Oui. Il y a fulgurance, et je pense, confusément, alors chez moi, il y a un rapport à la perte. C'est-à-dire que cette fulgurance, j'ai envie de l'attraper, comme ça serait pour un papillon, après pour le relâcher. Mais le moment où ça se passe, il faut saisir, c'est le kairos, il faut saisir cela. C'est pour ça que ça m'est arrivé, et là aussi je l'ai dit avec toute la prudence nécessaire, mais j'ai pas mal écrit en voiture. Et quand les gens disent en voiture, mais comment? Eh ben, c'est vrai, j'ai une voiture. Quand je suis en voiture, il m'est arrivé de me dire, il faut que j'écrive cela. Et à ce moment-là, donc maintenant, je me mets sur le côté, je m'arrête à un arrêt, je note, je repars, et puis il y a la suite qui me vient, je repars. Alors parfois, ça rallonge bien sûr le temps de route quand on a un rendez-vous, mais je vois bien ce que ça veut dire. Là, certainement, le transport physique a nourri la création.
C'est le transport physique, c'est de voir des paysages défiler.
Ça aide certainement. Le train est très propice à ça. J'ai écrit pas mal de choses avec le train. Mon seul regret, c'est que ça va trop vite, le train. Donc, même pour aller à Paris, de Marseille, 3 heures, on n'a pas le temps de dire ouf. Et non, moi, ça ne me gêne pas du tout que les trains mettent du temps. Hein.
Mais cette, comment dire, cette fulgurance qui surgit peut être ou poétique ou de l'ordre de la fiction, peu importe finalement.
Oui, oui,
Ce,
oui.
tu n'en déc tu ne décides pas.
Non, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait une part de moi. C'est vraiment des micros, je ne sais pas, des micros transmissions qui choisit que ça se mette dans la forme de la fiction. Et à ce moment-là, ça va partir dans cette catégorie-là. Voilà, quelque chose un peu de cet ordre-là. Si c'est la catégorie, il n'y a pas longtemps, là, hier, je crois, j'ai écrit une chanson. Voilà. Ça a choisi cette catégorie-là.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, hormis le fait qu'il va falloir que tu tries ce qui se trouve dans tes tiroirs et peut-être nous sortir d'autres
Moi,
recueils?
je perds, j'ai un rapport à la perte qui est très impressionnant. C'est-à-dire que les poèmes, là pour l'entretien, j'ai sorti quelques poèmes. Et il y en a quatre là, mais j'étais le plus près de là où j'étais. Et je savais déjà plus que j'avais fait ça. Et donc, il y a un travail très étonnant de revisiter, et là c'est pour l'auteur lui-même, je revisite ce que j'ai pu écrire. Et très vite, ça prend cette autonomie, cette distance qui peut exister. Après, il y a des poèmes qui reviennent. Là, j'ai apporté un poème qui est lié à mon épouse, et qui était flûtiste, qui jouait de la flûte traversière. Et comme je l'ai dit, elle a disparu brutalement. Qui est lié à mon épouse,
et qui était flûtiste, qui jouait de la flûte traversière. Et comme je l'ai dit, elle a disparu brutalement. Ce poème, elle était pédiatre, homéopathe, et aussi flûtiste traversière. Et elle était remarquable dans cette expression de la flûte traversière. Et ce poème, je l'ai écrit et elle a entendu. Elle m'a accompagné à l'époque. Et maintenant, le poème, il existe toujours. Et elle est toujours dans ce poème. Et maintenant, le poème, il existe toujours. Et elle est toujours dans ce poème. En ce temps-là, la flûte s'en va, lissant le monde de sa durée et de sa hâte. Elle passe à travers les murs, logeant ses habitations dans le vent. L'air travaille sous les plateaux, l'air joue sur les dunes immenses. De colonne en colonne, sa royauté respire bien au-delà de nos mémoires d'aigle ou de serpent ou de danseur, jouant son pas sur la grande place. Ainsi, par elle, se dresse l'arbre. Traversière, en ce temps-là, traversière de ce temps-là, la flûte va jusqu'à la plus infime tige d'herbe qui se souvient de Dieu. C'est tiré de La Terre à Croiser. Un ensemble que j'ai écrit, je crois, en 1998.
Et j'avais envie de terminer. Non, enfin, je ne sais pas si c'est bienvenu ou pas, d'ailleurs, tu me le diras. Est-ce que l'écriture a été un recours pour ne pas s'effondrer suite à cette disparition douloureuse?
En fait, j'ai eu la chance d'écrire toute ma vie et c'est quelque chose que j'ai fait comme dans un monde parallèle mais qui était central mais qui n'a jamais eu de temps mort dans toute ma vie. Et je donne, alors je vais répondre à ce moment-là, mais j'ai eu précédemment ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Et ça a été la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si l'écriture avait échappé à cet autre temps de l'existence. Elle vivait son tracé, avec des hauts et des bas, des moments d'effervescence, et puis des moments de relative diète, parce que j'ai pas eu beaucoup, hein. Mais j'ai fait cela. Et donc, quand est arrivé, par exemple, ce temps de professionnel, enfin de chute professionnelle, enfin de moments difficiles, j'étais dans une résidence d'écrivain, je me suis mis à écrire à tel point que les gens me disaient, mais vous êtes en dépression. Il y a une part de moi qui était épuisé, en fait, je crois que c'est le mot propre, c'est épuisé, mais l'écriture régénérait mon être, y compris à une vitesse invraisemblable. Et c'est là où on voit que c'est l'environnement dans lequel on est qui va créer cette situation. Et il s'agit de s'en extraire. Eh bien, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui s'est joué au moment du décès brutal de Patricia. Plus d'autres coups qui ont suivi. Et donc c'est une phase vraiment très très dur. Il s'est trouvé que j'avais une résidence d'écrivain en Belgique. J'ai hésité à y aller. Et puis je me suis dit, bon, allez, j'y vais quand même. Et je me suis mis à écrire. Et ça m'a fait un bien fou. Et oui, c'est au fond, il y a quelque chose de constant là, à travers le temps. Hein. C'est une forme de croyance à l'intérieur de moi. Mais c'est une croyance et puis quelque chose qui est éprouvé dans mon
Une colonne
être.
vertébrale.
Ah oui, c'est ça, dans mon être. C'est-à-dire que ça fait du bien. C'est ivre vivant, c'est ça aussi. Hein. Il y a une ébriété de vivre. Et je vais dans cet endroit où cet appétit de vivre malgré, ça, il va pouvoir se manifester. Donc je sais qu'il y a ce lieu qui est là et il faut l'entretenir. Après, c'est comme l'exercice physique, hein. Il faut l'entretenir
Ou comme un jardin.
et exactement. Non, mais c'est ça. Et c'est bien. Voilà. Parfois, je me dis, c'est plutôt de m'empêcher d'écrire, qui est un peu paradoxal, hein, mais il y a des fois, je me dis, je m'empêche quand ça carbure un peu trop. Pour un peu plus dormir, pour garder un équilibre physique du corps. Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé tout à fait la solution d'écriture en marchant sans trop me casser la figure. Donc, c'est quelque chose un peu de cet ordre-là qui se joue. Mais oui, c'est une sorte de creuset ou un endroit dans lequel on va pouvoir nourrir un feu, l'allumer, l'entretenir. Et il est toujours là, à travers le temps, à travers les gens que j'ai aimés dans toute ma vie, et qui sont là. Dès que j'active cet endroit-là, ces personnes reviennent. Et puis les personnes présentes. Là, j'ai fait de merveilleuses rencontres ces derniers temps. Ben voilà, on est aussi autour du feu, autour de ce feu-là. C'est quelque chose de fabuleux.
Bah merci beaucoup, c'est une très belle conclusion
Merci.
que cette définition de l'écriture.
Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Et pour finir, je vous invite à consulter le site internet de Dominique, Dominique Sorrente avec 2 R.fr. En outre, sachez que vous pouvez trouver ou commander ses ouvrages dans toutes les bonnes librairies et découvrir son album Les Jours Mimosa sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi lui commander le CD en lui écrivant à Poésie Scriptorium 13. @gmail.com. J'ai bien dit album, n'est-ce pas? Eh bien, son tout dernier opus, Ivre Vivant, sera entre autres l'objet du prochain podcast. À bientôt et merci à Radio Galère. This is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go?